Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherchait de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Matthieu 13, 45-46. Une perle, à seulement la nommer, on voit immédiatement son éclat doux et blanc, son galbe parfait. L'imaginaire l'associe à la lune, au féminin, et la peinture ancienne en parle souvent les femmes. Pour cette parabole, j'ai cueilli deux perles, chacune appartenant à un tableau majeur. L'une orne l'oreille de la jeune fille à la perle peinte par Vermeer au XVIIe siècle. Vous connaissez le portrait, un bandeau bleu et un foulard jaune sur la nuque cachent sa chevelure. Elle porte une ample robe brune. À son oreille, la perle, toute ronde, réfléchit la lumière. L'autre perle appartient à la Vénus d'Urbino. Bon, Urbino, une ville d'Italie. Peinte par Titien au XVIe siècle. La déesse nue, à demi allongée, nous regarde avec insistance, disons-le avec provocation. Elle a pour seul vêtement une perle, irrégulière, oblongue. Des deux perles, l'une se veut symbole de pureté virginale, l'autre souligne la sensualité. Une perle sert à Jésus pour expliquer le royaume des cieux aux apôtres qui le questionnent, perplexes. Il a déjà souvent parlé de ce royaume, mais à ce jour de la parabole de la perle, les apôtres sont encore bien embarrassés. Jésus met tout en œuvre pour les éclairer, en nombre d'abord, pour varier les points de vue. L'explication du royaume par la perle s'insère dans une série d'autres, tout autant imagées. Ensuite, en démonstration, par décodage, celui qui sème la bonne parole égale le Fils de l'homme, la moisson égale la fin du monde. Pour terminer, Jésus interrogera les disciples. Avez-vous compris tout cela ? Ils répondront « Oui ! » On peut bien imaginer ce ton dubitatif, sinon, plutôt que de dire « oui » et rien de plus, comme cela s'est passé, ils auraient posé des questions pour aller plus avant. Et sinon, si les apôtres étaient vraiment sûrs d'avoir tout saisi, nous ne serions pas encore en train, nous, de nous interroger aujourd'hui et demain et encore longtemps. Nous partons donc d'un marchand en recherche de belles perles. Voici un spécialiste vivant de son expertise. Mais pas seulement. Il est aussi en quête de beauté. Mais pas seulement. Il a quelque chose du collectionneur, la passion. Tout collectionneur vous dira qu'il existe un sens de la découverte sélective. Quand il fouille l'étal d'un brocanteur, il se dirige intuitivement là où l'attend sa trouvaille, comme s'il existait une attirance réciproque entre lui et l'objet de sa quête. Dans la parabole de la perle, il semble en effet que chacun se cherche depuis longtemps, l'être humain et la perle. Tout le contraire du hasard. Une fois la découverte faite, une perle de grand prix, c'est le spécialiste qui parle. Il prend une décision risquée, vendre tous ses biens pour l'acquérir. Toujours en termes d'évaluation, puisque tel est le langage du marchand, cette perle vaut plus que tout, il en est certain. Faut-il une âme de chercheur pour découvrir le royaume de Dieu ? Pour répondre, mettons en regard ce texte de la parole de la Parabole de la perle et le texte précédent dit « Parabole du trésor caché ». Je la lis. Voici à quoi le royaume des cieux est semblable. Un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là. Le trésor se révèle ici peut-être au hasard d'un coup de pied dans une motte de terre, un coup de pied pour rien, pour le plaisir, sans que l'homme ait cherché de quelque manière à découvrir quoi que ce soit. Première remarque. Les deux narrations, situées entre deux extrêmes, d'un côté soudain le hasard, de l'autre une recherche ciblée depuis longtemps, induisent ceci. La découverte survient de toutes les manières possibles. Deuxième remarque, la différence de réaction immédiate chez les deux découvreurs. L'homme de terrain est empli de joie, le marchand, lui, plutôt traversé par une illumination. Une évidence lui est apparue qui n'est pas nommée. On en voit seulement la conséquence, l'achat de la perle coûte que coûte. L'un privilégie l'émotionnel, l'autre le cérébral. Finalement, il pourrait y avoir autant de textes sur la découverte du royaume des cieux que d'humains. Ce qui ferait une très très grosse Bible. Maintenant, dans un second temps, ces hommes si différents réagissent de la même façon, bouleversés, au point de vendre tout pour acquérir qui le trésor, qui la perle. Que représente alors le trésor, la perle? Jésus ne dit pas qu'il s'agit de Dieu, bien que Dieu, dans la tradition juive, soit toujours caché. Avec les paraboles du trésor caché et celle de la perle, il s'agit, dit Jésus, du royaume de Dieu. Plus précisément, c'est la trouvaille par un homme d'un trésor ou d'une perle rare qui symbolise le royaume de Dieu. C'est rencontrer Dieu et, je dirais, ne plus le quitter. Oui, une sacrée trouvaille. La parabole ne donne aucune information sur l'origine du trésor, mais sur celle de la perle, nous avons quelques connaissances. D'où vient une perle rapportée par une pêcheuse ou un pêcheur descendue en apnée au fond de l'eau? Elle naît d'une rencontre entre un animal, un crustacé, l'huître, et un élément minéral, le plus souvent un grain de sable. Le grain pénètre le manteau délicat du mollusque et le gêne. Toute sa vie, l'huître va sécréter de la nacre autour du corps étranger, des milliers de couches de nacre pour parvenir à une rondeur parfaite, merveille du vivant. L'histoire d'une perle raconte une lente élaboration synthétisée au fond de l'eau, comme si la douceur et la tendresse de la nacre constituaient la meilleure réponse possible à la blessure initiale. Et si la perle symbolisait à son tour la métabolisation de l'être humain? En effet, voici le marchand de perles transformé, illuminé, au point de changer son système de valeurs, car pour lui, rien ne vaut autant que la perle. Et on se doute que s'il avait possédé plus de biens, il les aurait encore vendus pour cette perle, parce qu'il aurait été gagnant de toute façon. On n'est pas marchand pour rien. Qu'a-t-il gagné? Il y a un avant et un après la perle. Si l'on se sentait, excusez-moi du peu, une huître, c'est véritablement un choc que d'apprendre ceci. On peut un jour tenir entre ses mains la perle la plus précieuse du monde. Par le rayonnement de la perle en sa possession, le marchand acquiert à ses propres yeux une valeur unique, extrêmement précieuse. L'éclat du trésor produit le même effet chez l'homme de terrain. Évidence lumineuse pour le marchand, choix, joie pour l'homme de terrain. Cela fait penser à une prise de conscience soudaine, comme cela arrive lors d'une psychanalyse réussie, quand survient l'insight. On appelle insight le moment où, allongé sur le divan, le patient est soudain en face d'un pan de sa vie jusque-là inconnu. Il le voit en cohérence avec le reste. Il saisit qui il est vraiment. Il se sent alors habité d'une force qu'il ignorait, du moins pas de cette façon-là, le sentiment immense de la liberté. Les nœuds qui empêchaient d'avancer sont des faits. Dans la parabole, il est aussi question d'insight. Tout vendre, se défaire de l'attachement aux choses devenues insignifiantes, exprime un changement de regard sur soi radical. Il a fallu découvrir pour l'un un trésor et pour l'autre une perle. Il aura fallu toucher du doigt l'existence du royaume du ciel pour approcher le monde autrement. Comment précisément ? Se sentir précieux en cohérence avec tous les vivants. Avec tous les vivants ? Oui, car si l'importance de mes possessions qui exprimait la valeur sociale des personnes vole en éclats, alors mon regard sur les personnes et tous les êtres qui peuplent l'univers change aussi. En psychanalyse, l'insight, cette illumination, ne pourrait se produire sans lien étroit avec le psychanalyste. De même, ce qui est advenu au marchand de perles ne saurait se manifester sans la présence de Dieu. Et que voit-on encore dans les paraboles au-delà de la joie et de l'illumination ? Au-delà, il est question de chemin de liberté. En veut-on une preuve ? Examinons la conjugaison des verbes. Dans la parabole du trésor caché, on voit l'homme de terrain donner un coup de pied dans une motte de terre. Il cache jalousement sa découverte. On se chauffe à sa joie, peut-être contemplative. Il va vendre ses biens. On ne quitte pas le temps présent. Le marchand, lui, cherchait des perles. Imparfait ! En ayant trouvé une de grand prix, c'est fait, nous sommes toujours en passé. Il s'en est allé vendre. On ne le voit plus. Mais où est-il passé ? Volatilisé, ailleurs, insaisissable, en route vers un monde dont on ignore tout. L'aventure, quoi. Imaginons cet homme, auparavant passionné par la beauté des perles, maintenant qu'il ne peut découvrir mieux que sa perle, maintenant qu'il a changé de regard sur lui et sur les autres, voilà, il s'est mis en tête de solliciter la beauté dans le monde. Beauté qui va du geste d'accueil à la guerre contre l'injustice. Bon, je dirais même, ce marchand de perles pourrait être féministe. Il sollicite la beauté dans la vie, au fur et à mesure de ses rencontres, malgré ses contradictions et ses chutes, malgré la violence et la misère qui l'entourent. Avec comme ressource et comme don, le sentiment d'être précieuse, libre et joyeuse, sa vie se met en cohérence avec l'aspiration qu'il vient de découvrir, participer au royaume de Dieu. À s'ouvrir à Dieu, à reconnaître son regard aimant, on voit la perle au fond de l'autre, perle capable de changer le monde, puisqu'elle a déjà transformé le système de valeurs de l'homme de terrain et du marchand. Pure jeune fille et Vénus lascive, vous êtes des perles à venir. Et vous aussi, Marie-Madeleine, Zachée, le Samaritain, la femme adultère, ceux et celles que l'on montre du doigt et les SDF mis au banc de la société. À travers les yeux de Dieu, se regarder comme un être précieux, se regarder soi, nous regarder ainsi les uns les autres avec ce même sentiment, voilà qui change le monde, voilà comment entrer dans le royaume du ciel sur terre. Mais le règne du ciel, qui y croit vraiment ? Ne vivons-nous pas sur une poudrière ? La terre peut sauter d'un jour à l'autre, et ceux qui ne croient pas au royaume des cieux auraient eu raison. De toute façon, d'ailleurs, ils ont en partie raison. Le royaume du ciel est loin d'être construit. J'ai envie ici de livrer un témoignage rapporté par un animateur de centre de réinsertion pour délinquants. Le voici conduisant un groupe de jeunes dans la cathédrale de Tours, édifice en pierre calcaire toujours plus ou moins en réfection, avec pour projet de montrer la beauté du travail des artisans du Moyen-Âge. Les jeunes s'avèrent incapables de concentration. Plus d'une minute trente d'explication et ils s'en vont en haussant les épaules. Mieux, ils investissent le conférencier. Certains veulent escalader les échafaudages. Bon, l'animateur impuissant les laisse faire et prie en silence pour qu'ils ne se cassent pas le cou. Enfin, tous descendent au trésor de la cathédrale, non sans avoir été préparés, tant bien que mal, admirer la magnificence du travail d'orfèvrerie des objets liturgiques et en appréhender la portée symbolique. Alors, solennellement, l'animateur demande au chef des brise-fer de prendre dans ses mains un ostensoir éclatant de rayons solaires et de perles. Bon, les perles, je ne sais pas si elles y étaient, serties comme souvent au centre, mais bon, je les ajoute ici pour le plaisir. Le garçon hésite, puis il tient l'ostensoir longuement, avec respect. À l'issue de la visite, où en sommes-nous? La plupart des garçons acceptent de suivre une formation pour restaurer du mobilier d'art. On leur a fait confiance. On leur a montré, prouvé qu'ils méritent de tenir entre leurs mains un trésor, une perle de grand prix. Ils sont précieux. Ils ont ressenti la liberté d'être autres que des brise-fer. Ils ne le savent pas, mais ils commencent ainsi à construire avec l'animateur le collier du royaume des cieux, perle à perle. Alors, à nous !